Dans les croyances superstitieuses, certains oiseaux sont classés comme étant de mauvais augure. Par contre, l'expression « oiseau de malheur » est le plus souvent attribuée à des personnes dont la présence, justement, annonce un malheur. Cette appellation funeste conviendrait presque à Ézéchiel parce qu'il répétait toujours les mêmes choses et elle n'était pas réjouissante. Il disait que Jérusalem serait détruite à moins que le peuple de Juda ne se repente de ses fautes. Mais avant de lancer la pierre à ce prophète que certains, c'est sûr, qualifiaient d'oiseau de malheur, il faut lire jusqu'à la fin de son livre. À l'exception du chapitre précédent qui rapporte les deux hymnes funèbres chantés lors de la destruction de l'Égypte, tous les discours d'Ézéchiel ont été prononcés avant la prise de Jérusalem. Par contre, la nouvelle série de prophéties qui commence avec le chapitre 33 fut donnée après la destruction du royaume de Juda. La troisième partie du livre contraste fortement avec tout ce qu'Ézéchiel a dit auparavant quand il annonçait le châtiment du peuple de Dieu et des nations païennes. Maintenant, au contraire, vu que ses oracles se sont accomplis, il va amorcer un tournant radical dans ses prophéties. Regardant vers l'avenir, il annonce à son peuple captif un message d'espérance et un futur radieux, l'établissement du royaume messianique. Cette troisième partie du livre d'Ézéchiel contient le développement complet des promesses énoncées occasionnellement dans les deux sections précédentes. D'un côté, il fallait la destruction totale de Juda afin de mettre une fin définitive aux fausses illusions des Israélites. D'un autre côté, il faut maintenant de puissantes promesses afin de les arracher au profond découragement dans lequel ils sont plongés. Pour ce faire, le prophète va peindre plusieurs tableaux grandioses qui décriront le relèvement progressif d'Israël du fond de l'abîme jusqu'au sommet de la sainteté et de la prospérité que lui assurera sa dignité de peuple de Dieu. Ézéchiel avait pris ses fonctions de prophète aux alentours de 593 avant Jésus-Christ. 7 ans plus tard, Jérusalem était détruite. Maintenant, c'est comme une nouvelle vocation qui commence pour lui. Après avoir démoli et arraché, le moment est venu de rebâtir et de planter. Cette réinstallation et ce nouveau ministère diffèrent sensiblement de sa vocation première, car elle a un caractère beaucoup moins solennel. De longs mois se sont écoulés depuis la destruction de Jérusalem quand, dans la colonie d'exilés, arrive un Israélite qui a pu échapper non seulement au massacre, mais aussi à la captivité. Et pour la première fois, les colons juifs peuvent entendre un témoin oculaire qui leur raconte la destruction de Jérusalem. Cette arrivée était celle qui avait été prédite et que l'Éternel avait indiquée à Ézéchiel comme étant le signe de son nouveau ministère. Le chapitre 33 est à la fois un retour en arrière et une évaluation des conditions présentes du peuple. Je commence à le lire. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur. Supposez que j'envoie la guerre contre un pays qui que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du cor pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du cor mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du cor et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il sauvera sa vie. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du cor, de sorte que le peuple n'est pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes. Mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. » Versets 1 à 6. Ce paragraphe concerne la destruction de Jérusalem et de Juda, dont la nouvelle parviendra le lendemain. Le prophète commence, comme il le fait souvent, par une allégorie. À cette époque, les villes d'une certaine importance étaient fortifiées. La nuit, toutes les portes d'accès étaient fermées à double tour, et des gardes parcouraient la muraille pour scruter l'horizon et écouter tout bruit anormal afin de ne pas se laisser surprendre par un quelconque ennemi. Ici, nous avons donc une sentinelle que le peuple a choisie pour l'avertir du danger. Si celle-ci accomplit bien son devoir, chacun sera alors responsable de son sort. Quand le prophète de Dieu met en garde les pécheurs disant qu'ils seront jugés, la balle est alors dans leur camp et c'est à eux de prendre les décisions qui s'imposent. S'ils décident de ne pas changer de conduite, le prophète ne sera pas responsable de la mort de ceux qui auront refusé de l'écouter. Ézéchiel avait maintes fois appelé le peuple de Juda à la repentance. Mais, comme dans son immense majorité, les Israélites ont refusé d'obtempérer, le prophète n'est pas mis en cause dans leur jugement. Par contre, si la sentinelle néglige son travail, ceux qui périront mourront à cause de leur faute, certes, mais la sentinelle aura aussi les mains couvertes de sang, car elle portera une part de responsabilité dans la mort des coupables pour avoir été infidèle aux ordres que Dieu lui avait donnés. Alors que Jérémie à Jérusalem et Ézéchiel parmi les exilés suppliaient les Israélites de se mettre en règle avec Dieu sous peine de châtiment, des faux prophètes les contredisaient, disant que tout allait bien et que jamais, au grand jamais, l'Éternel ne permettrait que Jérusalem soit détruite. Ces prophètes de mensonges portaient une très lourde responsabilité dans le malheur qui avait frappé la nation. D'ailleurs, ils étaient probablement tous morts. Cette histoire de sentinelle qui fait ou ne fait pas son devoir nous interpelle. En effet, dans la chrétienté, on trouve de tout. Les prédicateurs qui sont fidèles à la parole de Dieu et les autres. Les premiers mettent leurs contemporains en garde contre leur façon de vivre et surtout leurs fausses croyances concernant Dieu et ce qu'il exige de ses créatures. Le message est pourtant très simple. Tout le monde, sans exception, est coupable devant Dieu et il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Seulement, la majorité des membres du clergé se contentent de prêcher la pratique des bonnes œuvres et de rites qui, disent-ils, feront l'affaire. Un tel enseignement égare des multitudes qui sont certes perdues du fait de leurs péchés, mais ceux qui les ont trompés, même involontairement, auront aussi des comptes à rendre à Dieu. Je continue le texte. « Eh bien toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, méchant homme, tu vas mourir, et si tu ne dis rien pour l'avertir, afin qu'il abandonne sa mauvaise conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne veut pas l'abandonner, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. » Au début de son ministère, Dieu avait confié à Ézéchiel la tâche d'avertir son peuple du malheur qui l'attendait. Comme il a fidèlement rempli son mandat, ceux qui ont péri ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le prophète est déchargé de toute responsabilité à leur égard et Dieu ne lui fait aucun reproche. Je continue. Fils d'homme dit à la communauté d'Israël, vous ne cessez de répéter, comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles? Dis-leur. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Versets 10 et 11. Les exilés reconnaissent enfin leur faute comme étant la cause de la destruction de Jérusalem. Mais, atteints par le jugement divin et découragés, ils adoptent une attitude résignée et fataliste. Alors l'Éternel répond que s'ils reviennent à lui, ils vivront. Leur salut est donc entre leurs mains. Dieu leur avait déjà dit cela 5 ans plus tôt, mais ils n'avaient pas écouté. Je continue. Et toi, fils d'homme, dis aux membres de ton peuple, si un homme juste tombe dans le péché, sa droiture passée ne le sauvera pas. De même, si le méchant abandonne sa mauvaise conduite, sa perversité passée ne causera pas sa perte. La droiture passée ne fera pas vivre le juste le jour où il se met à pécher. Quand bien même j'aurais dit au juste qu'il vivrait, si fort de sa droiture il se met à commettre le mal, on ne tiendra plus compte de toute sa droiture et il mourra à cause du mal qu'il aura commis. Et quand bien même j'aurais dit au méchant, tu vas mourir. S'il abandonne ses fautes et fait ce qui est droit et juste, il vivra. S'il restitue le gage qu'il a exigé et rend ce qu'il a volé, s'il se conforme aux commandements qui font obtenir la vie et cesse de faire le mal, certainement, il vivra, il ne mourra pas. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis. Puisqu'il a fait ce qui est droit et juste, il vivra. Versets 12 à 16. Tout comme un juste qui se corrompt ne peut compter sur sa justice passée pour le sauver, les pécheurs qui entouraient le prophète ne périront pas s'ils écoutent ses appels, se repentent du mal qu'ils font et obéissent à la loi. C'est la seconde fois qu'Ézéchiel donne ce message, mais le contexte est différent puisqu'ici, on se situe après la chute de Jérusalem. Par la bouche de son prophète, l'Éternel veut faire comprendre aux exilés que l'avenir reste ouvert, mais qu'ils doivent changer de comportement et revenir à lui. Ce principe est toujours applicable aujourd'hui. Le croyant qui persiste dans le péché risque de subir la discipline divine. L'apôtre Paul écrit « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ses jugements, le Seigneur nous corrige pour que nous ne soyons point condamnés avec le monde. Ce châtiment divin peut même aller jusqu'à la mort physique. » Je continue le texte. Les gens de ton peuple ont dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable. Mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas équitable. Lorsqu'un juste se détourne du bien et commet le mal, il mourra pour cela. Et lorsqu'un méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce qui est droit et juste, il vivra pour cela. Comment osez-vous dire que sa manière d'agir n'est pas équitable? Je vous jugerai, chacun selon sa manière d'agir, gens d'Israël. Versets 17 à 20. Même les personnes qui étaient justes selon les critères de l'Ancien Testament furent déportées et elles protestent contre la manière d'agir de l'Éternel. Mais Dieu répond en réaffirmant le principe énoncé précédemment d'une manière encore plus énergique et plus solennelle. Malgré le jugement terrible qui vient de frapper le peuple, les exilés qui se repentent peuvent être assurés d'obtenir grâce. C'est l'enseignement qu'Ézéchiel devra désormais donner à ses compatriotes. Vous et moi subissons aussi la faute de nos contemporains parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres dans le péché. Ceci dit, chacun d'entre nous devra comparaître personnellement devant Dieu pour rendre des comptes sur la façon dont il aura vécu. Je lis un passage. « Les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » Lorsque quelqu'un dit « Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il m'arrive ce malheur, cette tuile ?» il ne se rend pas compte que le Seigneur ne lui doit rien, sinon de le juger à cause de ses fautes. Je continue le texte. Le cinquième jour du dixième mois de la onzième année de notre captivité, un rescapé de Jérusalem arriva vers moi pour m'annoncer que la ville était tombée. Verset 21. Nous sommes en janvier de l'année 586 avant Jésus-Christ, soit 6 mois après la chute de Jérusalem en juillet 587. Cependant, selon certains manuscrits, la prise de Jérusalem s'est faite en 586 et non en 587. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'elle a bel et bien eu lieu. Lorsque la nouvelle de cette terrible catastrophe est arrivée, les exilés étaient en état de choc car jamais ils n'avaient cru que Dieu châtirait son peuple aussi sévèrement. Les Israélites ne croyaient plus que l'Éternel juge le péché et ils s'en sont trouvés fort mal. Je continue. Or, le soir précédant son arrivée, la main de l'Éternel s'était posée sur moi et le Seigneur m'avait rendu la parole avant que ce fugitif vienne vers moi le matin. Il m'avait ouvert la bouche de sorte que mon mutisme avait cessé. Verset 22. Pendant tout le temps de son ministère, Ézéchiel ne pouvait s'exprimer que pour annoncer les jugements de l'Éternel. Mais maintenant que ceux-ci s'étaient accomplis et que la nouvelle était parvenue aux exilés, il pouvait parler, comme vous et moi, normalement. Je continue. Et l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, ceux qui habitent au milieu de ces ruines, amoncelées sur la terre d'Israël, parlent ainsi. Abraham était tout seul lorsqu'il a reçu la possession du pays, mais nous sommes nombreux et le pays nous a été donné en possession. versets 23 et 24. Ce second discours fut prononcé peu après l'arrivée du fugitif. Il concerne les illusions insensées que se faisaient encore ceux qui restaient en Palestine en s'attribuant à tort la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham, disant quelque chose comme « Lui était seul et pourtant le pays lui fut donné. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes encore nombreux le conserverons. » Je continue le texte. Réponds-leur donc, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Vous mangez de la viande avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang et vous posséderiez le pays. Verset 25. Les rescapés savaient comment l'Éternel avait pris soin d'Abraham. Alors étant ses descendants, ils s'imaginaient que Dieu s'occuperait d'eux de la même façon. Mais c'était oublié qu'on est héritier d'Abraham à condition de marcher sur ses traces, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Or, les Israélites étaient des rebelles qui n'en faisaient qu'à leur tête. Je continue. Vous vous fiez à votre épée. Vous avez commis des actes abominables. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Verset 26. Un certain Ishmaël de race royale avait constitué une bande de vauriens qui pillaient leurs compatriotes et vivaient de rapines. Ils avaient même tué le gouverneur mis en place par Nabuchodonosor. Je continue. Voici ce que tu leur diras, le Seigneur, l'Éternel, déclare. Aussi vrai que je suis vivant, ceux qui sont parmi les ruines périront par l'épée et ceux qui sont dans la campagne seront livrés en pâture aux bêtes sauvages. Et ceux qui se seront réfugiés dans les rochers et dans les cavernes mourront de la peste. Verset 27. Certains Israélites avaient échappé au massacre et à la déportation. Mais eux aussi mourront. Chacun à sa manière. Je continue. Je transformerai le pays en une terre dévastée et déserte. Je mettrai fin à sa puissance dont il s'enorgueillit. Et les montagnes d'Israël seront si dévastées que personne n'y passera plus. Alors ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai réduit le pays en une terre dévastée et déserte à cause de tous les actes abominables qu'ils ont commis. Versets 28 et 29. La ruine du pays sera totale et la possession de la terre promise cessera complètement, ce qui provoquera une coupure nette entre le passé et l'avenir. Alors les Israélites reconnaîtront avec amertume qu'ils avaient bien eu tort de ne pas prendre les menaces de Dieu au sérieux. Ici, Ézéchiel s'adresse aux exilés parce que certains d'entre eux partageaient encore les fausses illusions de ceux qui demeuraient en Palestine. Je continue. « Quant à toi, fils d'homme, les gens de ton peuple jasent sur ton compte, le long des murs et aux portes des maisons. Ils bavardent entre eux, ils se disent l'un à l'autre, « Venez donc écouter quelle est la parole qui vient de l'Éternel. » Puis ils accourent en foule chez toi. Les gens de mon peuple s'assoient devant toi, ils écoutent bien tes paroles, mais ne les traduisent pas en actes, car ils ne parlent que de choses plaisantes, et dans leur cœur, ils ne recherchent que leur intérêt. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Ils écoutent donc tes paroles, mais personne ne les traduit en actes. Versets 30 à 32. Le prophète s'en prend aux exilés, ou plutôt c'est l'Éternel par l'intermédiaire du prophète, parce qu'ils sont charmés par sa manière subtile de parler, ses mimes, ses images et ses maximes. Ézéchiel était un personnage respecté dans la colonie, seulement on venait l'écouter comme on irait voir une pièce de théâtre. Pour les exilés, il était comme un comédien, mais leur cœur restait fermé à son appel de repentance. Or, si des temps meilleurs doivent se dessiner pour le peuple, il faudra que sa disposition morale change du tout au tout. Ce message s'adresse aussi à nous. L'apôtre Jacques écrit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Je finis le chapitre 33. « Cependant, quand tout ce que tu as prédit se réalisera, et c'est déjà en train de s'accomplir, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. » Verset 33. quand l'existence nationale de Juda aura complètement cessé et que des étrangers posséderont le pays, du moins en partie, alors cette terrible réalité confirmera que les prophéties d'Ézéchiel n'étaient pas de simples paroles en l'air, mais un sérieux avertissement qu'il aurait fallu écouter. Pendant un temps, Dieu s'adresse à moi par sa parole. Mais si je fais la sourde oreille, il me parlera avec des actes de jugement.